À l'émission Marcher en creusant, nous vous présentons une émission de la série ayant comme titre « Vivre de tout son être », animée par le père Bernard Hugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.
Dans l'émission précédente, nous avions parlé des guérisons de Jésus, de la façon dont il ne se contentait pas simplement de guérir le corps, mais aussi il apporte un salut qui concerne toute la personne, dans ses dimensions de relation, dans ses dimensions spirituelles, dans tout son être. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est beaucoup plus difficile et pour lequel il est important d'être très humble. Il s'agit de la souffrance. Il y a certainement parmi nous des personnes qui traversent une souffrance qui pour elles peut-être provoque des réactions de rejet, de doute, peut-être de révolte. Ça peut être une souffrance physique, une souffrance psychologique, ce sont des personnes qui sont peut-être malades, d'autres qui n'ont pas d'emploi, d'autres qui passent par une déprime. Alors je voudrais m'approcher de leur souffrance avec beaucoup de respect, parce que je pense qu'on ne peut pas parler de la souffrance des autres et qu'il ne faut pas donner des conseils aux autres quand ils souffrent. Parce que le chemin de la souffrance, c'est toujours un chemin très particulier, unique. Et pourtant, il faut bien en parler. Il faut bien en dire quelque chose. La souffrance nous confronte au mal, qui reste un mystère. C'est Claudel qui disait « Le Christ n'est pas venu expliquer la souffrance, mais l'habiter de sa présence. » Il n'y a pas d'explication à la souffrance et au mal tels qu'ils sont au départ. Mais il y a une réponse à cette souffrance qui est, pour nous, la compassion dans la façon dont on l'accueille. Nous savons que la souffrance est d'autant moins acceptée aujourd'hui que, pour beaucoup de gens, comme on l'a dit déjà plusieurs fois dans cette émission, le bonheur s'exprime par l'absence de souffrance. Heureux celui qui est en bonne santé. Tant qu'on a la santé, tout va bien. Et donc cette équation entre santé et bonheur fait que quand la souffrance apparaît, pour beaucoup de gens, c'est le malheur, c'est la catastrophe. Et cela, bien sûr, c'est lié au fait qu'il y a une certaine fuite de notre réalité humaine. Parfois, on oublie qu'on est fragile, qu'on est limité, et surtout quand on est en bonne santé, on pense qu'on sera toujours en bonne santé. Et peut-être aussi à cause des progrès extraordinaires de la médecine qui ont fait qu'on s'attend à ce que tout soit réglé, qu'il n'y ait plus aucune souffrance. Alors c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, la médecine fait un gros effort pour tenir compte de la douleur contre laquelle on peut lutter. Pendant trop longtemps, on n'a pas été assez actif contre la douleur par peur de faire perdre conscience, par exemple, à la personne qui souffre. Et là, je rappelle simplement qu'il y a une différence entre douleur et souffrance. La douleur renvoie à une situation physique d'épreuve, tandis que la souffrance est beaucoup plus large. La souffrance, c'est aussi quelque chose de physique, mais c'est psychique, c'est moral, c'est spirituel, c'est même métaphysique, lorsque la personne est complètement déchirée par des questions essentielles, face au mal, justement. Donc maintenant, quand je m'adresse aux personnes qui souffrent, je m'adresse autant à des gens qui sont victimes du déchirement d'un couple, des enfants qui peut-être souffrent d'un divorce, donc toutes sortes de personnes qui, et vous en êtes, vous certainement d'une façon ou d'une autre qui m'écoutez, eh bien voilà, dans une situation où vous vous sentez diminué, où vous doutez de vous-même, où vous n'êtes pas sûr de votre avenir, où vous vivez des angoisses et peut-être des insomnies, surtout pour ceux qui entendront un jour peut-être cette émission la nuit. Avec les améliorations de nos conditions de vie, on met un accent sur la responsabilité de chacun, mais nous savons que nous ne pouvons pas tout gérer, tout dominer, sinon on se met dans la toute-puissance. Il y a eu pendant un temps un discours pervers sur la souffrance, j'y ai déjà fait allusion et j'y reviens. Jésus n'a pas sauvé l'humanité par sa quantité de souffrance. Et il ne faut pas croire que la souffrance est un bien en soi. La souffrance n'est pas un bien ni un mal dans le sens qu'elle n'a pas de valeur morale. Il peut se faire à certains moments que la souffrance ait un effet positif lorsque cette souffrance nous signale, j'y ai déjà fait allusion, qu'actuellement notre style de vie ou notre relation aux autres, ou bien par exemple quand je souffre de voir les gens du tiers-monde dans des situations insupportables, eh bien ça peut être pour moi un signal que quelque chose n'est plus supportable et qu'il faut agir. Mais nous savons que très souvent, la souffrance aussi est quelque chose qui nous empêche de nous déployer, d'avancer. Pour certaines personnes, la souffrance est un chemin de maturité. Pour d'autres, c'est une cause d'autodestruction. Donc, si c'est Dieu qui envoyait la souffrance, comme on l'entend parfois, il prendrait un risque terrible. Parce que la souffrance de l'un peut être une expérience de libération et de découverte de ses profondeurs, et nous en connaissons des gens qui disent « j'ai enfin découvert qui j'étais parce que j'ai été confronté à la souffrance ». Mais nous savons aussi que pour d'autres, cela débouche sur le suicide. Donc, il faut être très prudent lorsqu'on parle de la volonté de Dieu par rapport à cela. Mais avant d'en reparler, je voudrais dire un mot sur une des grandes différences qu'il y a justement entre le bouddhisme et le christianisme. J'en parle parce que pour un certain nombre de personnes, une des raisons pour lesquelles elles se sont plutôt tournées vers le bouddhisme, c'est que dans le bouddhisme, eh bien, il n'y a pas de Dieu à qui on pourrait reprocher de permettre à l'homme de souffrir. Et il y a toute une responsabilité par rapport à la souffrance. Alors très brièvement, que nous dit le Bouddha dans son enseignement? Ce qu'on appelle les quatre nobles vérités. D'abord, il dit que tout est souffrance. La naissance est souffrance, la maladie est souffrance, et la mort, et l'ignorance. Et si on connaît un temps de bonheur, on sait qu'après on va souffrir du fait que ce temps de bonheur est terminé. La deuxième noble vérité, c'est que la souffrance a une cause. Et la cause principale, c'est l'ignorance. C'est d'attacher une véritable importance à des choses qui passent. Tout est impermanent, rien ne reste. C'est aussi l'illusion de se prendre pour quelqu'un. C'est l'ignorance de cette fugacité qui nous fait souffrir. La troisième vérité, c'est qu'on peut s'en libérer en ayant une attitude juste, justement qui nous libère de l'ignorance, des passions, par des pratiques qui sont les pratiques justes, ce qu'on va appeler l'octuple chemin, le chemin des huit passages justes. Et la dernière vérité, c'est que quand on a cette attitude-là, on peut arriver à ce détachement intérieur. Étant arrivé à la fin des réincarnations, des renaissances, on peut connaître le nirvana. Alors dans cette approche-là, il y a tout un enseignement sur la façon de gérer la souffrance, mais il n'y a pas d'explication sur l'origine de la souffrance et du mal. Parce qu'il n'y a pas de création, parce qu'il n'y a pas de Dieu créateur, parce qu'il n'y a pas de Dieu personnel, il n'y a pas de récompense après la vie, après la mort, on est dans un temps cyclique. Et l'homme est pris dans ce mouvement des renaissances qui sont une fatalité dont il doit se libérer. Donc la question qui se pose pour tant de chrétiens et de juifs par rapport à des drames comme un génocide, eh bien, elle n'est pas posée par les bouddhistes. Or, pour les chrétiens, pour les juifs, il y a une question essentielle qui se pose et qui est devenue incontournable après la Shoah, donc le génocide juif, mais qu'on a retrouvé au moment du génocide du Rwanda, qu'on a retrouvé également à propos du Kosovo, etc. C'est-à-dire lorsqu'on arrive à un mal quasi absolu et on a l'impression que Dieu est absent. Et ces questions ont été posées de façon très forte, entre autres par un auteur qui s'appelle Hans Jonas, qui est un juif, qui disait « Il y a trois propositions que l'on tient qui sont impossibles. » C'est d'une part de dire que Dieu est tout-puissant, ensuite de dire qu'il est tout amour, et ensuite de constater ou d'avoir l'impression qu'il est inactif au moment où l'homme est détruit par l'autre, lorsqu'il y a de véritables destructions massives. C'est incohérent. Or, en tant que croyants, nous pensons que Dieu est cohérent, qu'il est compréhensible. Alors, si Dieu est vraiment tout amour et qu'il n'agit pas contre le mal, mais c'est qu'il n'est pas tout-puissant. Ou bien s'il est vraiment tout-puissant et qu'il n'agit pas contre le mal, alors il n'est pas tout amour. Donc ils en sont arrivés, ceux qui se sont engagés sur ce chemin, à dire, eh bien, dans le fond, Dieu n'existe pas, c'est un concept incohérent, c'est un concept vide. Mais la réponse que nous apporte le judaïsme et le christianisme aussi, c'est, est-ce qu'on n'a pas exagéré la toute-puissance de Dieu ? Est-ce qu'on n'a pas trop vite pensé que cette toute-puissance voulait dire une manipulation constante de tout ce qui se passe ? Alors du coup, la providence voudrait dire, Dieu provoque la mort, provoque les accidents, Dieu guérit systématiquement quand on le lui demande, le danger de s'installer dans une relation quasi magique à Dieu. Or, ce que nous montre la création du monde, par exemple, qui est certainement là le lieu où on peut trouver des réponses essentielles, c'est d'abord que, bien sûr, il y a eu cet acte de toute puissance de Dieu lorsqu'il a créé de rien tout ce qui existe, comme nous le disons dans notre credo, dans notre foi. Mais une fois que le monde a été créé et qu'il a eu ses lois, Dieu respecte les lois de l'univers. Bien sûr, il y a un certain nombre d'exceptions comme quelques miracles, la conception virginale, la résurrection du Christ. Mais nous voyons que Dieu est infiniment respectueux des lois de cet univers. Et c'est saint Thomas lui-même qui disait « Dieu lui-même ne peut pas faire que ce qui a été n'a pas été ». Mais ça va beaucoup plus loin. Non seulement Dieu a créé le monde et respecte les lois de ce monde qui est inachevé. Donc il y a des choses qui changent, des choses qui ne sont pas parfaites, il y a des mouvements dans le cosmos, etc. Mais il va beaucoup plus loin dans le sens que non seulement il respecte les lois de la nature, mais que en créant l'homme à son image et à sa ressemblance, il lui a donné l'intelligence, la sensibilité, la volonté, la liberté. Et qu'en créant l'homme libre, Dieu se met sous la dépendance de la réponse de l'homme. Et c'est là que Dieu, en créant l'homme à son image, a pris un risque terrible et continue à prendre ce risque, puisqu'il continue à créer chaque fois qu'un homme naît et conçu. Et voilà que ce Dieu que l'on imagine tout-puissant, qui aurait le droit de tout contrôler et de tout manipuler, nous voyons ce Dieu qui nous est présenté dans la Genèse, circulant dans l'Éden, dans le jardin, à la recherche d'Adam. Adam, où es-tu ? Parce qu'Adam, en fait, a voulu prendre la place de Dieu, s'est imaginé que Dieu était absolument tout-puissant et qu'il pouvait prendre sa place comme lui a proposé Satan. Et voilà que Adam se retrouve dans la honte et a rompu le pacte quand on lui a demandé de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et voilà donc que Dieu, que l'on croit tellement tout-puissant, se trouve devant cet homme qui n'a pas été capable de se laisser aimer. Et cela, ça rejoint sans doute aussi notre propre expérience. Si Dieu est Père, il nous donne cette liberté d'enfant d'accueillir ou de refuser son amour. Et ça, c'est la vulnérabilité de Dieu. Je voudrais rappeler que je suis en train de parler de cette toute-puissance de Dieu qui a été conçue pendant longtemps, même par des chrétiens et des juifs, comme une toute-puissance d'intervention qui fait que lorsqu'on se sent en ordre, lorsqu'on se sent juste, lorsque par exemple quelqu'un a été malade dans notre famille et nous avons prié, on a été en pèlerinage, on a fait ce qu'il fallait à Sainte-Anne ou à Lourdes, eh bien on a des droits sur Dieu. Et on lui reproche de ne pas être intervenu. Or, si Dieu est véritablement Père, et s'il nous a créés avec une liberté qu'il respecte, nous sommes bien obligés de reconnaître qu'il est aussi, comme tout père, toute mère de famille, face à cette liberté que nous avons de répondre ou non à son amour. Et donc, lui ne va pas nous sauver contre nous. Il ne va pas nous sauver sans nous, mais aussi, parfois, il va permettre que certaines choses arrivent où il va se trouver lui-même face à des situations qui ont été provoquées par nous, les hommes, qui sont cause de souffrance. Parce que s'il y a des souffrances qui sont difficilement explicables et qui viennent de la nature, un tremblement de terre, un raz-de-marée, des inondations, il y a aussi beaucoup, beaucoup de souffrances qui viennent de l'homme qui refuse d'aimer et de se laisser aimer et qui prouve qu'il n'est pas capable de se laisser vraiment aimer. Et c'est là que nous voyons que nous avons aussi notre responsabilité et qu'il serait trop facile d'accuser Dieu de ce qui nous arrive. Bien sûr, nous sommes face à cette grande énigme, ce grand mystère, parce que nous sommes quand même en face de questions pour lesquelles nous n'avons pas toutes les réponses. Mais je voudrais insister sur cette dimension de vulnérabilité de Dieu. Vous savez, quand on parle de toute puissance de Dieu, pendant tout un temps, on a dit en théologie, dans le catéchisme, que Dieu était impassible. Que Dieu n'était pas touché par la souffrance de l'homme. Et si on disait cela, c'était pour respecter le fait que Dieu est infiniment au-dessus de l'homme, qu'il est éternel, qu'il est infini. Et on se disait, mais si Dieu peut être touché par la souffrance de l'homme, eh bien ça va le changer. Et donc à ce moment-là, il n'est plus immuable, il n'est plus infini, il n'est plus transcendant. Mais il y a toute une réflexion théologique qui s'est faite, entre autres, par des personnes comme le père Varion, qui dit, mais qui nous permet de dire que Dieu est invulnérable s'il nous a envoyé son propre fils? S'il est venu souffrir avec nous? Qui permet de dire cela? Et pourquoi est-ce qu'on nous reprocherait de faire de l'anthropomorphisme en disant « Dieu est vulnérable » Parce que dire que Dieu est impassible, est-ce que ce n'est pas aussi un anthropomorphisme? Alors s'il faut utiliser des images pour parler de Dieu, qui est quand même infiniment au-delà de ce que nous pouvons en dire, autant utiliser des images qui reflètent plus ce qu'il a voulu être pour nous tel qu'il nous l'a montré, dans le cas de la personne de Jésus, qui nous a aimés jusqu'à la déchirure, et où nous voyons Dieu qui pleure à certains moments sur Jérusalem ou sur Lazare. Donc un Dieu qui nous rejoint avec une compassion réelle. Donc, notre Dieu nous rejoint là où nous sommes avec notre souffrance et il est important d'en être conscient lorsque nous sommes tentés par la révolte. Le vrai chemin de guérison n'est pas forcément la guérison physique. J'en ai déjà parlé et je reviens là-dessus parce que ça me paraît essentiel. Pour un chrétien, l'important, c'est la découverte que je suis un enfant bien-aimé. Et que la parole qui a été dite à ma naissance, à mon baptême, parole qui a été dite au baptême de Jésus, m'est adressée à moi aussi. Tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Et arriver à croire en cela, croire dans cette tendresse et cette présence de Dieu, quand j'ai l'impression d'être abandonné de lui, quand j'ai l'impression que mes chapelets, mes prières, mes eucharisties n'aboutissent à rien, quand j'arrive à cela, j'entre vraiment dans un chemin de libération et de guérison de mon cœur et de mes profondeurs. Et je n'en suis plus à dire « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que cela m'arrive ?» Parce que dans une réflexion comme celle-là, on est encore avec cette idée que Dieu peut intervenir, peut empêcher la voiture de déraper, peut empêcher le microbe d'agir, peut empêcher que mes excès provoquent telle ou telle diminution de ma maladie, de mon tempérament ou de mon corps ou de mon équilibre. Mais est-ce que c'est possible de croire que mon Dieu m'aime comme cela s'il n'y a pas des gens qui en sont le signe? Et cela, c'est une question qui est adressée aux chrétiens et à la communauté chrétienne. Comment est-ce que nous traitons les malades, les gens fragiles? Comment est-ce que nous les rejoignons par notre tendresse et par notre présence? Parce que s'il n'y a pas des personnes qui, par leur attitude, par leur fidélité, par leur visite, par leur écoute, sont icônes de cette tendresse du Père, qui me parle de cet amour du Christ, parfois dans un accompagnement silencieux, une main qui se serre, un sourire, un regard. Mais s'il n'y a pas des personnes habitées par l'Esprit de Dieu et qui, au nom de cet amour de Dieu, viennent près de moi me dire « Tu es enfant bien-aimé, ne te crois pas abandonné », comment puis-je croire qu'effectivement je suis l'aimé de Dieu malgré ma souffrance? Et je crois que c'est important pour nous de nous rendre compte de cela. Que c'est souvent à travers un regard que Dieu rejoint la personne qui souffre et qui se sent abandonnée. Et j'aime cette définition que donne l'abbé Pierre de l'amour. Peut-être l'avez-vous déjà entendu. Aimer, c'est quand tu souffres, j'ai mal. Et il y a certainement parmi nous des personnes qui souffrent de voir souffrir d'autres personnes. Et c'est bien la preuve qu'elles aiment, c'est bien la preuve qu'elles se sentent concernées. Alors cette phrase, il vaut bien la comprendre. Cela veut dire, nous ne pouvons pas vraiment être proches de quelqu'un qui souffre sans nous laisser toucher. Et en même temps, il est important de ne pas nous laisser démolir. Et pour les soignants, pour les personnes qui accompagnent des malades ou qui visitent des malades et qui écoutent et qui entendent ce que je dis pour le moment, eh bien, elles savent bien qu'elles ne peuvent aider que si elles arrivent à garder ce que j'appelle la juste distance. À la fois me laisser toucher et en même temps ne pas me laisser envahir. Il ne faut pas trop vite que je me prenne pour le sauveur. Je crois que dans le cœur de beaucoup de bons chrétiens, il y a un sauveur qui sommeille. Et nous aimerions guérir, et nous aimerions apporter la réponse, et nous aimerions soulager. Et souvent nous faisons l'expérience de notre impuissance, et c'est terrible cela. Et pourtant, il nous faut vivre avec cela parce que le sauveur, ce n'est pas nous. Il faut pouvoir déposer cette souffrance là aussi, de l'accompagnant, du soignant, dans le cœur de Dieu. Mais ce qui est important, c'est d'être proche de cette personne âgée qui se sent diminuée, de ce demandeur d'emploi qui se sent inutile. Parce que souvent, le pire, la plus grande souffrance, c'est moins ce que l'on peut ressentir que le sentiment d'abandon et aussi le sentiment d'inutilité. Et pour beaucoup de personnes, c'est l'isolement qui est le plus douloureux à vivre. Alors, il y a aussi la question, est-ce que la souffrance peut être féconde? Je dirais attention. Je vous disais, Jésus ne nous a pas sauvés par la quantité de souffrance, mais par la qualité d'un amour qui est allé jusqu'au bout. Alors, ne disons pas trop vite que la souffrance est féconde. Mais il y a une façon féconde de vivre la souffrance, de vivre la diminution, de vivre la fragilité. Comme il y a d'ailleurs une façon féconde de vivre ses qualités, son dynamisme. C'est-à-dire en les vivant en relation. En les vivant comme un don de nous-mêmes. En les vivant en étant soi-même ouvert à ce Dieu qui sans cesse nous donne sa grâce. De façon à ce que ce que nous vivons de positif et ce que nous vivons de douloureux soit source de vie pour les autres. Et cela, nous pouvons le vivre lorsque nous accueillons la grâce qui est toujours donnée. Et lorsque nous arrivons à vivre, malgré tout ce qui peut nous enfermer sur nous-mêmes, comme la femme courbée dont on a parlé la fois précédente, qui est là repliée sur elle-même depuis 18 ans, eh bien, être capable quand même de vivre une relation, une écoute, une proximité à d'autres, malgré cette souffrance. Et pourtant, je dirais, nous avons aussi le droit de crier. Nous avons le droit d'appeler Dieu au secours. Nous avons le droit de lui dire que nous avons le sentiment d'être abandonnés. Vous connaissez Job, l'histoire de Job, qui lui était encore dans une logique qui disait « si je suis juste, rien ne peut m'arriver ». Et cette mentalité est encore là aujourd'hui. Combien d'entre nous trouvent scandaleux d'être atteints par un mal alors qu'ils ont l'impression d'être justes, de faire tout ce qu'il faut. Et déjà Job aussi disait, mais c'est pas possible que cela m'arrive. Nous avons le droit, à certains moments, de crier cela. De même que dans les psaumes, nous pouvons lire à certains moments, Dieu, où es-tu? Parce que nous avons parfois l'impression que Dieu est absent, alors que peut-être qu'il est infiniment discret. Parce que de toute façon, il nous écoute, il nous entend, et il nous donne une grâce. Il est proche de nous. La question est peut-être plus, comment est-ce que le Seigneur est proche de moi, à travers les gens qui me visitent, à travers le personnel qui m'aide, à travers les soins qu'on me donne? Comment est-il proche de moi, à travers ses sacrements, à travers les gens qui prient pour moi, plutôt que de lui dire « tu n'es pas là ». Donc essayer de redécouvrir sa présence, malgré cette révolte de mon corps, de mon cœur, de mon psychisme. Parce que, et c'est Xavier Thévenot qui dit cela, eh bien c'est vrai, la souffrance, la maladie ne sont pas toujours chemin de fécondité, parce que souvent nous sommes atteints dans deux dimensions importantes qui sont liées à notre corps, qui sont le temps et la parole. Le temps, nous avons l'impression d'être déconnectés du reste de la vie, du monde. Et combien de personnes qui peuvent être maintenant en train de m'entendre ont ce sentiment de ne plus avoir leur place dans le monde et qu'il n'y a plus de temps, l'agenda est vide, il n'y a plus d'avenir. Et puis la parole. la parole, ou pour certains malades, certaines personnes en fragilité, c'est le mutisme. Je me coupe, je ne parle plus, je ne veux plus communiquer. Et pour d'autres, c'est l'envahissement. On n'arrête pas de parler de son opération, de sa souffrance, de sa difficulté, du personnel qui n'est pas à la hauteur, etc. Et on envahit l'autre de la parole. Et peut-être demander cette guérison par rapport au temps, par rapport à la parole, de pouvoir quand même entrer en relation, de pouvoir quand même écouter d'autres personnes, de pouvoir quand même se retrouver avec d'autres. Donc, ne disons pas trop vite que c'est la volonté de Dieu ce qui nous arrive là en lui reprochant. La volonté de mon Dieu, c'est que je puisse continuer à me laisser aimer et à aimer d'autres et être à l'écoute, même si pour le moment, j'ai l'impression que je n'y arriverai plus. Alors cette volonté, c'est que j'ouvre mon cœur, c'est que je me laisse aimer et que j'accueille et que je découvre cette petite parcelle de vie qui m'est quand même donnée, même quand je n'en sors plus. Sa volonté, c'est que je puisse croire que je suis vraiment son enfant bien-aimé quand j'ai l'impression que le Père ne m'entend plus. Jésus a connu cela sur la croix. Il s'est senti abandonné. Nous ne sommes pas seuls dans ce sentiment d'abandon. Faisons confiance et croyons dans tous ceux qui prient pour nous et peut-être aussi dans celui qui vous parle maintenant et qui prie pour ceux qui l'écoutent.
Vous venez d'entendre « Marcher en creusant » avec le père Bernard Hugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur. Thank you.